D'accord. Alors, je
Mais
vous fais aborder un petit peu la question de l'organisation du travail maintenant, qui est un thème important pour nos programmes. Alors, vous soulignez que la sociologie du travail a souvent été tentée d'appréhender l'organisation du travail en termes de modèle dominant, le toyotisme se présentant aujourd'hui donc comme la seule alternative possible à l'essoufflement du taylorisme. Quels sont les apports de la sociologie du travail contemporaine pour penser justement la pluralité des modes d'organisation de la production?
Alors, ce qui est vrai, ce que vous dites dans votre question est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de modèle un peu dominant, quoi, hein, une espèce de bloc indépassable pour réfléchir sur l'organisation du travail dès la genèse de la sociologie du travail. Donc le taylorisme en l'occurrence, le taylorisme a servi, était à la fois un modèle qui a longtemps fasciné les sociologues du travail et en même temps a servi de repoussoir. Hein. Donc on a toujours été dans cette espèce de relation d'ambivalence, fascination, repoussoir. Pourquoi? Parce que le taylorisme, que ça soit la doctrine ou que ça soit la pratique, parce que les choses sont bien différentes, parce que lorsqu'on lit les textes de Taylor, on s'aperçoit que c'est loin d'être la représentation ou commune que l'on peut avoir du taylorisme ou même la simple mise en musique par certaines entreprises. Donc que ce soit la doctrine ou les pratiques, ça a fasciné les sociologues du travail parce qu'on y voyait là l'incarnation, comment dire, d'une espèce de mal social absolu, hein, c'est-à-dire que la division du travail était une forme d'obstacle à l'émancipation de l'individu dans et par le geste productif. Et donc là, on retrouve une intuition marxienne qui était très tôt à la base de la réflexion en sociologie du travail, qui a deux grandes références, pour dire vite, en tout cas en France, qui est Proudhon et Marx. Et donc le taylorisme, c'était effectivement, enfin, c'était pensé comme une façon de limiter, hein, la capacité des salariés à libérer complètement leur potentiel au travail avec toute la créativité, la joie. J'utilise le terme de joie à dessein parce que Marx l'utilise et les sociologues du travail dans les années 50 l'utilisaient aussi. Voilà, donc il y avait cette espèce d'idée. Et donc ça a nourri tout un discours extrêmement critique, hein, en disant finalement le taylorisme, c'est par définition le levier de l'exploitation, de l'aliénation, etc. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la façon de voir globalement les choses n'a pas, enfin la façon de voir les choses, pardon, a évolué. Elle a évolué parce que d'abord, on se rend compte que le taylorisme a quand même fait long feu. Je dirais que c'est un débat, c'est quand même un constat relativement récent, parce que lorsqu'on revient dans les années 80-90, les grands débats qui organisaient la sociologie du travail, notamment les journées de sociologie du travail, c'était de savoir est-ce que le toyotisme ou les formes qui étaient apparentées au toyotisme n'étaient pas finalement une forme de néo-taylorisme. Et donc le débat c'était taylorisme est-il mort ou n'est-il pas mort? Et donc il y avait au fond deux grandes positions qui s'opposaient. Alors aujourd'hui les choses ont évolué et je pense que le débat ne se pose plus vraiment en ces termes. Alors première chose, il y a deux choses à dire, hein, de ce point de vue-là. Première chose, il y a l'idée qu'il y a une transformation globale de l'organisation du travail qu'on peut ramasser de façon synthétique pour le qualifier en disant c'est aujourd'hui l'autonomie sous contrainte qui est l'élément majeur qui permet de qualifier la situation des salariés en matière d'organisation du travail. En d'autres termes, on donne de plus en plus de marge de manœuvre aux individus dans leur travail pour pouvoir répondre aux différentes contraintes, pour pouvoir organiser eux-mêmes leur temps de travail, etc. Et sous contrainte parce que on sait que la contrainte du marché, la contrainte du client, la contrainte par les pairs augmente. Et ce qui produit des effets pathologiques, hein, différents de ceux qui servaient habituellement à qualifier la situation taylorienne. C'est-à-dire que au temps du taylorisme, si jamais celui-ci a jamais existé de façon dominante, c'était l'idée qu'il y avait une forme de lassitude au travail qui prédominait, il y avait une perte de sens dans le travail, etc. Aujourd'hui, personne n'a, ça a échappé à personne, c'est plutôt en termes de stress, de souffrance que le problème se pose. Donc, Premier changement global. Mais il y a un deuxième changement important qui consiste à cartographier le monde du travail en déclinant les réalités selon une pluralité de modèles d'organisation du travail. Donc on est sorti d'un schéma qui consisterait à qualifier le monde du travail avec un et un seul modèle d'organisation du travail. Aujourd'hui, les grandes enquêtes permet de dire qu'il y a au moins quatre modèles d'organisation du travail qui structurent les entreprises, au moins dans le secteur privé, mais ça vaudrait aussi en grande partie dans le monde du public. Grosso modo, il y a un premier modèle qui serait un modèle qu'on pourrait qualifier, ou que certains qualifient, de modèle d'organisation apprenante. Et qui trouve ses sources dans toute une série d'innovations qui ont été lancées dans l'industrie automobile très tôt par des grands constructeurs, par exemple comme Volvo, qui ont repris l'idée que des petits groupes de travail autonomes étaient en capacité de construire aussi vite et bien des automobiles que des travailleurs que l'on met à la chaîne, quoi, hein. Et donc on redécouvre d'une certaine manière les vertus de la coopération au travail, les vertus de l'élargissement des tâches, les vertus de l'autonomie dans le travail, etc. Et ça s'est répandu dans toute une série, notamment de secteurs, notamment de services comme l'assurance, les banques, etc. Et ça concerne plutôt le travail des cadres et avec une forme de je sais pas quel serait le terme exact, mais je pense au travail au forfait. Grosso modo, on dit aux gens, voilà, on vous donne un objectif et vous débrouillez pour l'atteindre, quoi. Hein, voilà. Donc ça sera un premier modèle de type organisation apprenante. Il y a un deuxième modèle qui est effectivement qui est le travail d'inspiration toyotiste, enfin une organisation du travail d'inspiration toyotiste, avec toutes les injonctions que l'on connaît, puisque ce modèle-là a fait couler beaucoup d'encre. Grosso modo, il s'agit de travailler en flux tendu, d'éliminer les stocks, exigences de qualité, de traçabilité, etc. Alors, ce qui est vrai, hein, c'est que on sait maintenant aujourd'hui que ce modèle-là n'est pas forcément une alternative forte et radicale. Enfin, en tout cas, ne crée pas forcément rupture avec l'ancien modèle taylorien, parce qu'on peut avoir toutes ces exigences-là avec en même temps des conditions de travail extrêmement rudes, avec le fait que le contrôle qualité n'est simplement qu'une tâche en plus par rapport à des tas de tâches habituelles, etc. Mais bon, c'est clair que c'est un modèle qui s'est développé dans toute une série d'industries, je pense par exemple à l'industrie du transport, de l'électronique, etc., quoi. Troisième modèle, c'est le vieux modèle taylorien, hein, et autant qu'on puisse en juger par les enquêtes dont on dispose, c'est vrai qu'aujourd'hui ce modèle taylorien est minoritaire, hein. C'est-à-dire on peut plus dire qu'aujourd'hui le taylorisme serait un parangon de l'organisation du travail en France, quoi, hein. Mais il demeure, dans certaines industries, l'industrie agroalimentaire demeure un royaume, hein, de l'organisation taylorienne du travail, même si ça fait débat dans certaines poches de service. Je pense par exemple au call center, on peut évoquer dans certains cas des formes d'organisation taylorienne du travail. C'est extrêmement compliqué à diagnostiquer parce que les call centers sont très très variés dans leur mode d'organisation, mais c'est vrai que ça demeure là et ça peut continuer à prendre naissance, hein, dans certains espaces de service. Et puis il y a un dernier modèle qui est souvent évoqué dans les travaux de sociologie du travail à l'heure actuelle, qui serait, pourrait-on dire, les formes d'organisation du travail qu'on trouve dans les univers de type PME, quoi. C'est-à-dire où on est dans des situations de contrôle direct, que ça soit par l'employeur ou bien par le client ou par la personne auquel on va rendre le service, etc., quoi. Donc ça renvoie à un mode d'organisation du travail différent, où la supervision du travail est directe, où on est en dépendance directe avec autrui, où la relation clientèle compte, etc. Et on voit bien que ça, c'est un modèle qui est extrêmement, enfin qui se développe fortement dans par exemple dans tout ce qui est service à la personne, dans le commerce, etc., quoi. Donc, au fond, si je tire la leçon de tout ça par rapport à la question initiale que vous posiez, ce qui me paraît, c'est qu'il y a deux leçons qui peuvent être tirées, hein, des transformations de l'organisation du travail. Première leçon, c'est que on a intérêt à raisonner en termes de variété, hein, des modes d'organisation du travail, ce qui n'empêche pas de retrouver certaines constances derrière ces variétés, hein, le fait que selon les statuts, les professions, etc., on sera plutôt du côté de tel ou tel modèle, mais on a renoncé, je crois, aujourd'hui à faire du taylorisme ou même de ce qui pourrait être le successeur d'un modèle taylorien une seule entrée, hein, une entrée unique pour pouvoir penser le travail. Donc variété des modes d'organisation du travail, premier point. Et deuxième chose, c'est que on n'est plus, mais alors là le débat est ouvert notamment avec les psychologues du travail. On n'est plus forcément dans l'idée que l'organisation du travail est nécessairement meurtrissante. Elle a des effets meurtrissants, mais en tout cas, je pense que du point de vue des sociologues, on constate que le rapport au travail est bien plus ambivalent qu'on ne le dit. À la fois, ça a des effets délétères en termes de santé, d'identité, etc. Mais en même temps, ça reste une source de construction de soi, une source de plaisir, etc. Et certains modèles d'organisation, plus que d'autres, de fait, hein, favorisent ben, le fait qu'on s'y retrouve lorsqu'on travaille, quoi, hein. Donc, je dirais un rapport plus nuancé peut-être que simple diagnostic de l'aliénation ou de la souffrance au travail. Voilà, en deux mots.